France Inter.
Bonsoir Louise Aubéry et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les premiers grands incendies de l'été. L'autoroute A9 est même coupée depuis le milieu de l'après-midi entre Sète et Lunel dans les deux sens. 200 pompiers sur place, reportage à venir. Le rassemblement contre l'A69 dans le Tarn, un millier de contestataires. Les premières tensions éclatent ce soir avec les forces de l'ordre. Au Vatican, voilà un Français en première ligne sur la question des abus sexuels dans l'Église. Le pape vient de nommer Mgr Thibaut Verny à la tête de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Le Tour de France, première étape, première chute, premiers abandons et premier maillot jaune sur les épaules du Belge Jasper Philipsen. Enfin, nous irons au Festival d'Avignon rejoindre Stéphane Capron en cette journée d'ouverture. Et puis le temps de demain dimanche, Magali Rochereau, seule la Corse restera en vigilance canicule.
Oui Eric, le temps change radicalement et les températures baissent avec l'arrivée de la perturbation.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Ça ne pouvait pas plus mal tomber en ce premier grand week-end de départ en vacances d'été. L'autoroute A9 a été coupée entre Sète et Lunel dans les deux sens. Depuis 15h cet après-midi, un important incendie s'est déclaré sur la commune de Fabrègues dans l'Hérault, dans le massif de la Gardiole. Thomas Pinaroli, 200 pompiers et 4 canadaires tentent donc ce soir de maîtriser cet incendie.
Oui, la faute au vent tourbillonnant qui souffle cet après-midi sur l'Hérault et qui complique grandement l'intervention des secours. Quelques dizaines d'habitants les plus proches des flammes doivent donc quitter leur domicile. La commune de Mireval a ouvert sa halle des sports pour les accueillir. Preuve de la difficulté avec ce feu, les pompiers ont d'abord donné en milieu d'après-midi l'ordre de rouvrir les voies de gauche sur l'autoroute A9. Avant de se raviser, pompiers qui occupent donc toujours les 6 voies de l'autoroute autour de Fabrègues, puisque le feu a enjambé en fait l'autoroute et les fumées continuent de se propager de part et d'autre de cette A9. Plusieurs autres routes départementales sont fermées, notamment celles qui traversent le massif de la Gardiole, d'où est parti le feu. Le dernier bilan fait état de 100 hectares de végétation brûlée. Alors, pas de véhicules touchés, pas d'habitation touchée non plus pour l'instant, mais vous l'avez compris, tout évolue très vite.
Et on ne connaît toujours pas ce soir l'origine de ce gigantesque incendie. La préfecture déconseille aux automobilistes de se rendre à proximité de cette zone incendiée, à proximité donc de l'autoroute A9. C'était Thomas Pinaroli de Ici Hérault. Dans l'Aude également, la 61 est coupée, là où 400 hectares sont déjà partis en fumée. Dans le Cher, un feu de forêt sur la commune d'Enordre a déjà ravagé 110 hectares. Quant aux Bouches-du-Rhône, le gigantesque incendie qui s'était déclaré ce matin est désormais circonscrit. Un millier de personnes réunies aujourd'hui dans le Tarn pour protester contre le chantier d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Les travaux ont repris le mois dernier. Rassemblement pourtant interdit par la préfecture. Les forces de l'ordre sur place ont identifié des individus de la mouvance ultra-violente. Une cinquantaine d'armes ou objets potentiellement dangereux ont été saisis. Bonsoir Guillaume Fariol.
Bonsoir.
La situation a commencé à dégénérer il y a 1h30 environ entre les contestataires et les forces de l'ordre.
Oui, l'image est forte. Ces violences sur le tracé de la 69, tout près d'un pont en construction. De grands nuages de gaz lacrymogène ici au milieu de la campagne tarnaise. Au premier plan devant nous, un impressionnant dispositif policiers et de gendarmes, une centaine de membres des forces de l'ordre et à l'arrière, face à eux, des manifestants, quelques centaines, certains habillés tout de noir, masqués, cagoulés. Ils ont dressé une barricade de palettes et de parpaings sur la route nationale. À l'instant où je vous parle, la situation est plutôt calme, mais on sent bien qu'elle peut dégénérer dans les toutes prochaines minutes. Certains manifestants sont d'ailleurs en train d'approcher de la police. Au-dessus de nos têtes, un hélicoptère, plusieurs drones. Ces incidents donc qui restent limités, ils n'ont pas duré pendant des heures comme il y a un an ici en juin 2024, mais plutôt pendant une bonne dizaine de minutes. L'après-midi, la journée a été globalement calme, il faut le dire. Un millier de manifestants à 16 heures selon le dernier décompte de la préfecture, réunis donc pour dénoncer la reprise du chantier de la 69 après 4 mois de suspension. Décision de la cour d'appel de Toulouse. Les manifestants dénoncent aussi un projet d'autoroute anachronique qui promeut la voiture et les énergies fossiles.
Voilà. Et commentaire ce soir du chef de l'État sur le réseau X. Emmanuel Macron estime que force doit rester à la loi. C'était Guillaume Fariol en duplex du Tarn avec les moyens techniques de Florian Layani. Attention au buy-in demain et lundi également sur le littoral des Landes et de Gironde. Les deux préfectures appellent à la plus grande prudence sur les plages. Les courants seront potentiellement dangereux. Les baigneurs risqueraient d'être entraînés vers le large. Le premier maillot jaune du Tour de France, il est ce soir sur les épaules du Belge Jasper Philipsen. Première étape à Lille, avec quelques chutes durant le parcours. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir Eric.
Jasper Philipsen, c'est un des meilleurs sprinteurs du monde, mais il n'avait jamais jusqu'ici porté le maillot jaune.
Eh oui, la terreur belge du sprint mondial qui remporte ce soir sa 10e étape déjà sur le Tour de France. Mais celle-ci saveur très particulière, c'est vrai, parce qu'elle lui permet d'endosser le maillot jaune. Ça ne lui était effectivement jamais arrivé. Et si Jasper Philipsen est ce soir leader du Tour, eh bien c'est en grande partie grâce à un homme, son coéquipier Mathieu Van Der Poel, le plus français des Néerlandais, encore parfait ce soir, Van Der Poel à Lille dans son rôle de poisson pilote.
C'était une grande opportunité pour nous aujourd'hui, pour l'équipe, pour prendre le maillot jaune avec Jasper. Et on a fait un joli boulot à la fin. Le Tour, il est déjà réussi pour nous. Comme équipe, commencer comme ça, c'est magnifique.
Voilà, mais tout le monde n'a pas passé une aussi bonne journée. On annonçait déjà du grabuge, de la nervosité, même sur une étape plate. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Plusieurs favoris déjà piégés dans des bordures, des cassures dans le peloton causées par un vent de côté. Primoz Roglic piégé, tout comme Remco Evenepoel, le Belge, troisième du Tour l'an dernier.
Bah, je pense qu'on s'est endormi un petit peu parce que toute la journée était bien devant. On était bien groupés. Et puis j'avais l'impression que le peloton était assez calme. Et puis ça casse, il y avait la bordure. Et je pense que c'est une grande faute collective de notre part. Mais maintenant il faut regarder vers l'avant. Ça s'est passé comme ça, c'est dommage, mais ouais, c'est comme ça.
49 secondes perdues déjà pour Evenepoel. Pareil pour le Slovène Primoz Roglic. Certains sont même arrivés beaucoup plus loin, comme le jeune et grand espoir français Lenny Martinez, pointé ce soir à plus de 9 minutes.
Nicolas Perronnet en direct du Tour de France. Liaison assurée par Selim Guerribi. Ce sera dans moins de 2 heures à Zurich en Suisse. L'équipe de France de football, l'équipe de France féminine de football débutera son premier match de championnat d'Europe face à l'Angleterre, tenante du titre. Les Françaises joueront sans leur capitaine historique Wendy Renard, non sélectionnée. Mais pour l'entraîneur Laurent Bonadei, l'équipe de France féminine a bien d'autres atouts.
On rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas de round d'observation. On a dans notre groupe les deux derniers vainqueurs des deux derniers Euros avec la même coach. Qui est aussi qui a joué les deux dernières finales de la Coupe du Monde, donc c'est une référence dans le football féminin mondial. Forcément, on est en position de challenger. J'ai vu qu'elle nous avait positionné en favori. C'est le jeu un petit peu du bluff un peu de ce premier match, mais à partir du moment où je le dis depuis le début, on n'a encore rien gagné. Les favoris de ce groupe sont les Pays-Bas et l'Angleterre, mais ça veut pas dire qu'on manque d'ambition. Au contraire, on va aborder ce groupe avec l'ambition de vouloir gagner tous nos matchs. Chaque match va être des matchs relevés.
Voilà, ce France-Angleterre Euro féminin de football va débuter à 21h aujourd'hui à Zurich.
France Inter, Éric Delvaux.
Le pape Léon XIV a nommé aujourd'hui un archevêque français à la tête de la commission du Vatican sur les abus sexuels commis par le clergé. Thibaut Verny présidera donc la commission pontificale pour la protection des mineurs et il restera en même temps archevêque de Chambéry à Rome. Bruno Duvic.
C'est un très bon connaisseur de ces dossiers que vient de nommer le pape, naguère à Paris, puis au plan national au sein de l'Église de France, et enfin à Rome, Monseigneur Verny traite ses affaires depuis plusieurs années. On peut voir dans cette nomination une reconnaissance du travail mené en France avec la CIAZ. Léon se démarque ainsi de François qui avait avec la CIAZ des rapports difficiles. Il lui reprochait d'insister sur le caractère systémique des abus au sein de l'Église. La structure dont Monseigneur Verny prend la tête à 59 ans travaille-t-elle en toute indépendance vis-à-vis du Vatican et quels sont ses pouvoirs réels? Question récurrente. Ses membres, hommes, femmes, religieux, laïcs, ne peuvent qu'accompagner les églises locales, premières responsables dans la lutte contre les abus. Le dernier rapport de la commission montre que dans certaines régions du globe, le sujet est à peine identifié. Autre difficulté, Monseigneur Verny, qui reste archevêque de Chambéry, succède à un homme très charismatique, le cardinal O'Malley, resté célèbre pour sa gestion du scandale. scandale des abus à Boston.
Bruno Duvic, notre correspondant à Rome, à Madrid. Combien seront-ils ce soir au défilé de la Gay Pride ? Ils étaient près d'un million l'an dernier. Bonsoir Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Madrid. Cette grande parade vient de commencer. Cette année, la communauté LGBT craint pour ses droits. Mais pour l'instant, c'est la fête qui commence.
Oui, c'est bien ça. Le défilé vient juste de démarrer et c'est le point culminant des festivités qui ont eu lieu toute cette semaine dans la capitale. C'est aussi l'un des plus grands événements LGBT d'Europe. Comme chaque année, des centaines de milliers de personnes provenant du monde entier viennent ici revendiquer leurs droits dans une ambiance très festive. La marche des fiertés va parcourir pendant des heures le centre de la capitale avec une cinquantaine de chars thématiques qui devraient défiler, des bus décorés et une multitude de participants qui vont danser et chanter. Mais bien sûr, comme vous le disiez, il y a aussi un aspect plus politique et revendicatif. Cette marche des fiertés veut défendre la tolérance et la diversité. Cette année, sous le slogan « 20 ans d'avancée en matière de droit, aucun pas en arrière », elle met à l'honneur le mariage gay qui vient de fêter ses 20 ans en Espagne. Alors près de 80 000 unions ont été célébrées depuis 2005, mais le collectif reste vigilant et inquiet face à la montée de l'extrême droite et du discours de haine. Selon un rapport qui a été publié en mai dernier, la LGBT-phobie a fortement augmenté en Espagne. Une personne LGBT sur quatre souffre de discrimination, tandis que les agressions physiques ou verbales ont doublé en un an.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. Voilà un concert dans quelques heures en Croatie qui pourrait bien battre un record mondial de fréquentation payante. 450 000 personnes sont attendues à l'hippodrome de Zagreb pour entendre le chanteur croate Thompson, très populaire dans son pays. Le chanteur est réputé pour ses sympathies néo-nazies. Il prône le nationalisme et l'ancien régime, Noah Perret.
C'est l'équivalent de plus de la moitié de la capitale qui va se rassembler pour écouter ceci. Prêt pour la patrie, les trois premiers mots de sa chanson la plus connue, une expression loin d'être anodine, c'est un cri de ralliement de l'ancien régime croate Ustachi, allié de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Thompson, de son vrai nom Marko Perković, est devenu une icône folk-rock dans les années 90, en pleine guerre d'indépendance. Ses textes, eux, sont ultra-nationalistes et glorifient l'ancien régime. Alors qu'est-ce que cet engouement derrière Thompson peut dire de la société croate d'aujourd'hui ? Alexis Troud est enseignant-chercheur et spécialiste des Balkans.
Il y a une perte de repères politiques, c'est ça surtout. Ben les gens se réfugient dans une sorte de nostalgie un peu brutale qui est ressentie par eux comme une sorte de réminiscence d'idées nationales, mais qu'ils ont mal comprise. Et donc, malheureusement, c'est pas seulement le cas en Croatie, c'est le cas ailleurs dans les Balkans et ailleurs en Europe.
Une montée en puissance du nationalisme en Croatie, comme l'illustrent les dernières élections législatives de 2024 et l'entrée au gouvernement du mouvement patriotique connu pour son discours nationaliste et son rejet de l'immigration.
Noah Perret, correspondante de France Inter à Zagreb. En France, un pas de plus pour Gabriel Attal sur la route qui mène à l'Élysée. Le secrétaire général de Renaissance déclare ce soir qu'il souhaite proposer aux Français un chemin pour 2027. Nous partons à Avignon pour l'ouverture aujourd'hui du festival, placé cette année sous le signe des cultures arabes. En début d'après-midi, le chorégraphe libanais Ali Charour a donné le ton avec son spectacle intitulé « When I saw the sea », quand j'ai vu la mer. Spectacle répété il y a quelques semaines à Beyrouth, dans des conditions bien difficiles. Stéphane Capron.
Ali Charour a eu l'idée de ce spectacle pendant les bombardements de l'armée israélienne cet automne. Il rencontre sur la corniche, à Beyrouth, une jeune Éthiopienne abandonnée par ses employeurs en fuite. Elle dit alors, rayonnante, « C'est la première fois que je vois la mer au Liban ». Le chorégraphe a eu envie de dénoncer le kafala, sujet sensible dans son pays.
Les familles libanaises peuvent faire venir des travailleurs migrants et elles ont accès à tout, à leur humanité. Elles leur confisquent leur passeport, ils vivent dans des conditions épouvantables et il n'y a jamais d'enquête pour les crimes. Ça a entraîné de nombreux viols, des meurtres, des suicides. C'est tout simplement de l'esclavage.
Le spectacle a été répété à Beyrouth dans des conditions précaires, mais cela n'a jamais entaché la volonté d'Ali Charour.
Je ne sais pas défendre ma terre, je ne sais pas porter une arme, je ne sais pas tuer, mais je sais faire de la danse et du théâtre. C'est donc mon outil de résistance à moi. Faire du théâtre au Liban, c'est un vrai combat. Et mon équipe et moi, nous avons décidé de gagner ce combat, même si c'est épuisant.
Ce spectacle d'une grande beauté ouvre de la plus belle manière ce festival d'Avignon et sa thématique autour des langues arabes.
Stéphane Capron au Festival d'Avignon. Et puis ce soir, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, sera donné le spectacle Note de la chorégraphe capverdienne Marlène Monteiro Freitas, une pièce inspirée des contes des Mille et Une Nuits. Le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Bonsoir Magali Rochereau.
Bonsoir Eric.
Eh bien, une perturbation arrive dès ce soir par l'ouest.
Oui Eric, les premières pluies commencent à tomber sur les côtes de Manche et le Nord-Bretagne, annonçant cette perturbation pour la nuit qui se situera demain matin entre les pays de la Loire et le front belge, accompagnée de pluies modérées et provoquant la baisse des températures qui seront comprises entre 18 et 22 degrés à votre réveil sur le pourtour méditerranéen.
Ouais, et demain matin, seule la Corse restera en vigilance canicule. La chaleur va d'ailleurs considérablement baisser.
Dans l'après-midi, Météo France prévoit des maximales entre 27 à 31 degrés sur la région sud-est, ailleurs entre 20 et 25 degrés et localement jusqu'à 26-27 degrés dans le sud-ouest, avec un ciel qui s'assombrit, des Charentes à la Lorraine, toujours ses pluies faibles et aussi quelques coups de tonnerre dans le nord-est. Du sud-ouest au Massif central et jusqu'à l'Alsace aussi, ça s'ennuage et même jusqu'à l'orage sur le relief pyrénéen et alpin. Ce soir, la perturbation atteindra les régions du sud-ouest à l'Alsace.
Magali Rochereau pour la météo.